Voilà, bonjour à tous, à toutes. Heureux de pouvoir être ensemble encore ce matin, cet après-midi aussi, bien sûr. Pouvoir également nous enrichir de la présence de Dieu. Dieu parle, vous l'avez entendu ? Il t'a parlé. Dieu parle. Oui ? Dieu parle pour notre bien, pour nous enrichir, pour nous faire du bien, pour quelquefois nous consoler. D'autres fois, c'est pour nous éduquer. Oh ! Eh oui. Mais c'est important. Nous le faisons pour nos enfants, parce que nous voulons le meilleur pour eux. Et Dieu veut la même chose pour nous. Amen. Alors Dieu parle, on va le voir, hein, de quelle manière il le fait, hein, de quelle manière également il se propose de nous enrichir, parce que sa parole, c'est une nourriture importante pour nous. Hein. Amen. On en a besoin. Est-ce que vous mangez tous les jours ? Des fois, il vous arrive de faire un break, hein, pas long, hein, de jeûner. Mais la nourriture de la parole de Dieu, la nourriture contenue dans l'enseignement des Écritures, on en a besoin tous les jours. Amen. Allez, ouvrez avec moi l'Épître aux Hébreux, au chapitre 1er, verset 1er. Hébreux 1, verset 1. Moi, c'est derrière moi. Est-ce que vous voyez où je descends ? Ça ne vous gêne pas ? Bon, ça va. Je ne suis pas très grand, hein ? Je ne suis pas comme monsieur, là. Allez, après avoir autrefois, plusieurs reprises, de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire, l'empreinte de sa personne, soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés. C'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts, devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui » Et encore, « Je serai pour lui un père, il sera pour moi un fils. » Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. De plus, il dit des anges, celui qui fait de ses anges des vents et de ses serviteurs une flamme de feu. Mais il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu, amen, ton trône, ô Dieu, le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice, tu as haï l'iniquité, c'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu, t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Et encore, toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais tu subsistes. Ils vieilliront tous comme un vêtement, tu les rouleras comme un manteau et ils seront changés. Mais toi, tu restes le même et tes années ne finiront point. Et auquel des anges a-t-il jamais dit « Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied ? » Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu ? Envoyé pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Amen. Comme le dit le verset premier, jusqu'à Jésus, la révélation a été comme fragmentée. Il y avait une révélation apportée par un homme, prophète. Il y avait à des moments une autre révélation apportée par un autre homme choisi de Dieu. Alors, à plusieurs reprises, comme il est dit, de plusieurs manières, je dirais d'une manière imparfaite, provisoire, les prophètes nous ont apporté une révélation. C'est ce que nous montre eh bien, l'Écriture, l'Ancien Testament. Alors, chacun y allait de ce que Dieu lui avait donné pour apporter quelque part quelque chose de plus clair, de plus limpide. Alors ça, c'est la révélation par les prophètes. Elle était importante, elle était variée. Chacun y allait également avec son caractère, avec sa nature. Mais, comme je disais, elle était comme fragmentée. Elle était présentée de multiples façons pour arriver, je dirais, à la rendre allez, effective, claire, limpide, compréhensible. La révélation de Dieu en Jésus, voilà que c'est tout à fait autre chose. Elle est complète. Elle est présentée par, je dirais, la personne même de Jésus. Qui est Jésus ? Certains vont dire loin de l'Éternel. Qui est Jésus ? Oh, le Verbe incarné, la parole de Dieu faite chair. Mais Jésus est Dieu. Amen. Il est de la même essence, de la même origine que le Père. Alors les prophètes étaient les amis de Dieu, mais Jésus, c'est le Fils de Dieu. Les prophètes saisissaient une partie de la pensée de Dieu, mais Jésus est cette pensée même. Amen. Il est la pensée même de Dieu. Alors il faut souligner qu'il n'est pas dans l'intention de l'auteur de cette lettre aux Hébreux, eh bien, de déprécier les prophètes, les révélations qu'ils nous ont apportées. Mais son but, c'est d'établir au contraire quelque chose d'important qui doit se faire jour dans notre cœur si ce n'est pas encore fait. C'est tout simplement la suprématie de Jésus. Il est au-dessus de tout. Amen. Il n'est pas un prophète parmi des prophètes, comme le disent certains. Il est Dieu. Alléluia. Il est au-dessus de tout. Alors, il ne dit pas non plus qu'il y a une rupture entre la révélation de l'Ancien Testament et celle du Nouveau Testament. Au contraire, il met en évidence qu'il y a une continuité, mais je dirais une continuité qui se termine en apothéose, par un couronnement. Jésus est le roi des rois. Amen. Il est le Seigneur de la vie. Il est le Tout-Puissant. Un homme un jour a été invité à visiter une grande ferme, une exploitation agricole par un ami qui était employé dans cette même exploitation. Alors en arrivant, il a vu une grande, magnifique demeure, une maison magnifique, voilà. Mais voilà que son ami ne l'a pas fait passer par devant, il l'a fait passer par derrière, il a contourné la bâtisse, hein, il lui a fait visiter des bâtiments secondaires. Alors, il était un peu frustré, il a dit, tu sais, cette maison est magnifique, j'aurais aimé pouvoir la visiter. Alors son ami lui a dit, c'est impossible, c'est la maison du patron. Donc là, je n'ai pas accès, voilà. Puis il a continué la visite, il a montré en passant dans l'enclos un cheval magnifique, hein, un pur sang. Oh, il a dit, comme j'aimerais le monter. Il a dit, hop, 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 c'est impossible, c'est le cheval de la famille du patron. Alors il était quelque peu frustré. Ah, il s'est rendu compte d'une chose, c'est que eh bien, son ami n'était qu'un employé, et lui, ce n'était que le visiteur, et il s'est senti quelque part eh bien, mal à cause de ses restrictions. Voyez, il lui avait fait, je dirais, un tel éloge de ce qu'il vivait, de ce que la demeure, la propriété magnifique, il s'attendait à pouvoir lui aussi jouir au moins du regard hein, de ceux qui étaient là. Mais il ne pouvait pas. Alors, vous voyez la différence entre les prophètes employés, si je peux m'exprimer ainsi, par Dieu, hein, et Jésus, elle est là la différence. L'employé donnait envie à son ami, mais il ne pouvait l'introduire plus en avant pour pouvoir goûter, je dirais, aux possessions familiales. Jésus, lui, contrairement aux prophètes, il nous introduit dans, tout simplement, les réalités éternelles. Amen. Il ne nous montre pas simplement le pays, mais il nous fait entrer dans le pays, il nous le fait goûter. Et quelle production dans ce pays ? Le lait, le miel, en abondance, qui coule à flot. Amen. L'auteur de l'Épître aux Hébreux utilise deux mots pour nous décrire tout simplement eh bien, qui est Jésus. Il nous dit que Jésus, c'est le reflet de la gloire de Dieu. Le reflet. Il rajoute aussi l'empreinte de sa personne. Amen. Alors, reflet, dans le mot grec, apogasma, il peut signifier deux choses. Le rayonnement et le reflet. Le rayonnement, ça vous parle de quoi ? Il y a un rayonnement, là. Hein, la lumière, elle est là, bien sûr. Hein. Le rayonnement, c'est la lumière qui éclaire. Amen. Le reflet, c'est une lumière réfléchie. Le rayonnement, c'est la lumière du soleil. Le reflet, si je peux m'exprimer ainsi, c'est la lumière de la lune. D'accord ? Eh oui. Alors Jésus est le rayonnement de la gloire de Dieu. La gloire, elle rayonne de lui-même car il est le Fils. Je disais, il est de même essence, de même origine. Il est le Fils de Dieu. J'ai pris plusieurs versions. La Tobe traduit ce Fils et resplendissement de sa gloire. La parole de vie, toute la gloire de Dieu brille sur lui. Français courant, le Fils reflète la splendeur de la gloire divine. Et la colombe avec la nouvelle Bible seconde, ce Fils qui est le rayonnement de sa gloire et l'expression de son être. L'expression de son être. Il est le rayonnement. Il nous donne la vraie lumière. Alléluia. Il y a aussi empreinte, je dis tout à l'heure. Alors, ce mot grec, et c'est caractère, tout simplement. En grec, il signifie deux choses. Un sceau. Vous voyez, pas le sceau, le sceau. D'accord ? Oui. Et deuxièmement, l'impression ou l'empreinte. D'accord ? Alors, le sceau, quand il est apposé, il laisse une empreinte. Vous voyez, une marque, c'est ça ? Une impression, c'est cela. Alors, l'empreinte, je dirais qu'elle a la forme exacte du sceau. D'accord ? C'est l'huissier. Paf ! C'est le Seigneur. Quelle empreinte que celle du Seigneur dans nos cœurs et dans nos vies. Alors, quand l'auteur dit que Jésus, c'est le caractère de la personne de Dieu, il veut dire qu'il est l'image exacte de Dieu. Amen. Donc, la révélation qu'il nous apporte, ce qui nous fait connaître de Dieu, c'est l'exacte vérité. Amen. Il ne nous fausse pas les choses. Les données sont claires, sont précises. Il est dit que la révélation, il veut qu'elle soit, je dirais, bien compréhensible, même par les tout petits. Il nous a dit même que le royaume de Dieu est pour ceux qui ressemblent à des enfants. Amen. Ne compliquons pas les choses. Quelqu'un l'a dit, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ? Moi, je dis non. Restons aux choses simples. On a tellement, nous, de difficultés à comprendre et à saisir. Alors que tout nous est donné par l'exactitude de ce que Dieu nous montre au travers de Jésus. Comme lorsque vous regardez une empreinte, vous avez, je dirais, la représentation exacte du sceau qu'il a fait. Quand vous regardez à Jésus, vous voyez exactement à quoi Dieu ressemble. Ah, ne faites pas comme ces deux hommes. Montre-nous le Père. Il y a si longtemps que je suis avec toi. Hein? Et oui, donc au contraire. La version française courante traduit « Il est la représentation exacte de ce que Dieu est. » La représentation exacte. Alors, ce qui a été dit par les prophètes, c'est magnifique, hein, certainement, hein, merveilleux, bien sûr, mais le Fils, lui, il fait plus. Il nous introduit dans la présence même de Dieu. Amen. Quand je plonge mes regards dans la parole de Dieu, quand j'entre en communion avec Jésus, j'entre en communion avec celui qui est tout simplement l'essence, l'origine de la vie, le Dieu de la création. C'est Jean qui dit dans son prologue, « Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » Et Jésus rajoute, « Celui qui m'a vu, il a vu le Père. » Amen. Est-ce que vous avez vu Jésus ? Est-ce que vous voyez Jésus ? Parce que vous avez vu, c'est le passé. Mais en ce moment, est-ce que vous voyez Jésus ? Amen. Vous pouvez même voir Jésus dans la vie de vos frères et sœurs. Amen. Et puis votre prochain qui, justement, est étranger. Un jour, vous allez le retrouver parce que vous allez prier pour lui. Vous allez retrouver votre prochain à l'image de Jésus, à la ressemblance de Jésus. Amen. Et oui, nous sommes tous frères et sœurs, issus du même Père. Et notre frère, c'est Jésus. Alléluia. Alors, la supériorité de Jésus, parce que je l'introduis comme cela, l'Épître aux Hébreux met, je dirais en avant, le caractère unique de Jésus. Il est au-dessus de tout. Nous avons certainement une connaissance des conceptions, même les plus grands savants, dans leur recherche, font des découvertes magnifiques, bien sûr. Mais Jésus, à qui le comparer ? Bien sûr que nous devons tendre à la ressemblance de Jésus, mais est-ce que nous serons un jour sur un pied d'égalité avec lui ? Pas ici-bas, en tout cas. C'est impossible. Alors, nous rencontrons des gens qui sont sincères dans leurs croyances, mais ce qu'ils croient n'est pas toujours conforme à la réalité ou à la vérité. Ils disent que la morale enseignée dans la Bible, par exemple, est bonne. Amen. Vous ne dites pas amen à ça ? Eh oui, c'est bon, hein ? Puis on se rend compte qu'ils ont choisi et rejeté certaines déclarations, certains enseignements, parce que eh bien, ça les dérange. Vous voyez ? Alors une partie, d'accord, mais pas l'autre. Mais Dieu est tout. Amen. Hein, c'est ce que disait une personne. Alors elle rajoutait, et c'est là qu'il y a une conception un peu erronée, chaque être humain, chaque atome, toute la lumière, tout est Dieu. Et elle ajoute également, de ce fait, eh bien, il ne peut y avoir de jugement puisque tout est Dieu. D'accord ? Et elle ne sait pas que ça s'appelle, bien sûr, du panthéisme. Les gens croient, je dirais, toutes sortes de choses, et on ne peut pas les empêcher de croire certaines choses, bien sûr. Mais le problème, c'est qu'ils vont confondre ce qu'ils croient personnellement, avec leur logique, avec ce que eh bien, la Bible nous enseigne, ce que la Bible dit. Par exemple, certains vont associer à la Bible la réincarnation. Moi, je crois à la résurrection, mais pas à la réincarnation. D'autres vont associer à la Bible l'astrologie, hein, communiquer avec les morts. Eh oui. D'autres, eh bien, c'est la projection astrale, la méditation transcendantale, etc. Et ils pensent justement qu'ils sont eh bien, libres de croire ce qu'ils veulent, sans se douter justement que la Bible condamne ces choses-là. Vous voyez un petit peu ? Eh oui, on ne peut pas les empêcher. On ne peut que prier pour eux pour que Dieu les éclaire. Ça, on peut le faire. Hein ? Alors certains vous diront, qu'importe ce que l'on croit pourvu, que l'on soit sincère. La sincérité. Ah oui, elle est mise en avant, bien sûr. Hein ? Alors comme si la sincérité avait tout simplement le pouvoir de transformer le mensonge en vérité. Parce que c'est ça. Eh oui. Alors, si vous êtes trompé, par exemple, de train, mais alors sincèrement, hein, vous êtes trompé sincèrement, vous étiez sûr que c'était celui-là qu'il fallait prendre. Vous voulez aller dans cette direction, mais vous avez pris le train qui va dans cette direction. Et vous étiez sincère. D'accord ? Eh bien, il faut vite arrêter, là. Hein. Pas tirer le signal d'alarme à la prochaine gare. Vous descendez, vous prenez eh bien, le train qui va dans la direction opposée, hein, bien sûr. Sinon, vous n'arriverez jamais à destination. Alors, bien des chrétiens, eh bien, donc, une foi de surface. C'est-à-dire qu'ils ne vivent pas d'après ce qu'ils croient. Et pour être tolérants, bien sûr, ils vont mettre sur un même pied d'égalité beaucoup de choses. Alors, j'ai noté Jésus sur un pied d'égalité avec Bouddha, avec Krishna, avec Mahomet, avec Confucius, avec Moïse. On va dire, oh, Moïse, quand même. Et non, Moïse était un homme de Dieu. Mais il n'était pas Dieu. D'accord ? Eh oui. Alors, les enseignements de Jésus, bien, ils sont uniques et il n'existe rien de semblable ailleurs. Ta parole est la vérité. Bien qu'on veut nous faire croire le contraire, on veut dire, mais non, il y a d'autres vérités. En ce qui concerne mon salut, il n'y en a qu'une. C'est la révélation que me donne la parole de Dieu, les paroles de Jésus. Jésus lui-même est unique. Que ce soit dans l'histoire, dans son influence et dans son impact dans le monde. Notre calendrier. Nous sommes en 2017 après Jésus-Christ. D'accord ? Il est unique. Amen. Les enseignements de Jésus ne peuvent être comparés même au plus grand des philosophes. Sa parole est la vérité. Mes paroles sont esprit et vie. C'est-à-dire qu'elles communiquent à celui qui a la foi, la vie. Elles prennent vie dans notre cœur, dans notre âme. Elles nous aident à sortir du marasme, à sortir de l'impasse. Elles nous réconfortent, elles nous réjouissent, elles nous apportent la paix. C'est la parole de Dieu. Amen. Alors, Dieu a parlé autrefois par des prophètes. C'était des hommes. Ce matin, il y a eu des prophéties. Amen. C'est des hommes qui l'apportent. Ils le font sous la gouverne de Dieu. Parce que quand on apporte un don spirituel, on le fait avec crainte. Parce que Dieu nous a choisis ce matin, par exemple, comme porte-parole. Donc on ne vient pas comme ça, mais on vient avec dans le cœur ce sentiment, oh Dieu aide-moi à ne pas parler de moi, ne pas mettre mon sentiment en avant. Mais ta parole Seigneur. Hein. Alors oui c'est important, Alors, ils ont parlé de la part de Dieu. Mais Jésus, lui, il parle en tant que Dieu. Amen. Sa position est unique. Et nous avons besoin d'avoir une connaissance exacte de celui que Dieu a envoyé. Par exemple, Dieu nous a parlé par le Fils. Il a établi héritier de toutes choses. Puis, il a aussi créé le monde. Amen. Il est le rayonnement de sa gloire, l'empreinte de sa personne. Il soutient toutes choses par sa parole puissante. Parole de Jésus. Pas des paroles en l'air. Hein? Amen. Sois fort. Ça veut dire, oh, sois fort. Ça veut dire quoi? Que je vais être fort parce que lui m'a donné la force. Il faut que je croie que je suis fort. Amen. Il faut que je le croie. Alors celui qui est à l'origine de tout, de tout ce qui existe, il dit que rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui, sans Jésus. Il était au commencement de la création, il était sans cesse en train de jouer sur le globe terrestre, bien sûr. Alors non seulement il a tout créé, ou il a créé toutes choses, mais c'est lui également qui soutient toutes choses par sa parole puissante. Amen. Sa parole est puissante. Ne doutez jamais de la parole de Dieu. Amen. Même si vous vous voyez imparfait, si Dieu vous dit que vous êtes beau, belle, croyez-le. Vous avez envie de le croire? Amen. Et s'il vous dit, t'es pas à la hauteur, ça aussi, croyez-le. Amen. Et à ce moment-là, il ne faut pas se mettre dans un petit trou de souris, parce que là aussi, il nous voit. Mais au contraire, il faut dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta grâce. Amen. Oui, j'ai besoin de toi. Alors le Fils est de la même nature que le Père, c'est-à-dire qu'il est Dieu. Pas un sous-Dieu, comme le disent les témoins de Jéhovah. Hein. Il est dit qu'il est l'empreinte de sa personne, hein, au verset 3. Et comme le dit Jésus dans l'évangile de Jean, Jean chapitre 5, verset 23, « Afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. » Amen. Et je n'ai pas une adoration plus grande pour le Père et plus petite pour le Fils. Il est Dieu. Amen. Je ne le sous-estime pas. Je le crois en tant que tel et je fais la démarche qui convient. La version Paré de Vie traduit « Ainsi tous respecteront le Fils comme ils respectent le Père. » Amen. Tous. Pas certains. Tous. Son œuvre également, elle est unique. Et il n'y a que Dieu qui pouvait accomplir l'œuvre justement que Jésus a accomplie. Il n'y a que Dieu, d'accord? Comment peut-on justement encore comparer les prophètes après, je dirais, tout ce que l'Écriture vient de nous dire? Parce que quelquefois, on nous a dit, mais oui, mais tel homme de Dieu, tel prophète. Ah, oui, mais Jésus est au-dessus. Amen. Eh oui, oui. Et aussi que le Saint-Esprit, eh bien, nous dit, il a fait la purification des péchés. Et il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Oh, qui pouvait pardonner, purifier un homme de ses péchés? Vous savez, quand Jésus a dit à ce paralytique, hein, tes péchés sont pardonnés, allez, lève-toi, prends ton lit, rentre chez toi, ça scandalisait tous ces chefs religieux qui étaient là. Tous qui étaient là, qui connaissaient la parole de Dieu, en fait, ils la connaissaient imparfaitement, parce que là aussi, c'était d'une manière fragmentée. Il n'avait pas eu encore la révélation complète de la révélation de Dieu. Amen. Il voyait en partie. Et quand Jésus va dire à cet homme, « Ami, tes péchés sont pardonnés. » Mais qui est-il? Pour qui il se prend? Il n'y a que Dieu qui peut pardonner les péchés. Et là, Jésus leur a montré quelque part un aspect de sa personne, une révélation. Il leur dit, voyez, parce qu'après, il va faire lever le paralytique. Regardez, le paralytique se lève. Mais ses péchés sont pardonnés. Amen. C'est ce qu'il fait. Alors ce Fils qui a créé le monde, qui soutient toutes choses par sa parole puissante, s'est livré lui-même en sacrifice expiatoire pour nos péchés. C'est-à-dire qu'il est allé jusqu'à la mort. Il s'est chargé de notre misère. Il s'est chargé de nos imperfections, de nos péchés, de notre saleté. Il s'est chargé de tout cela. Alors considérez, à sa juste valeur, qui est celui qui est mort sur le bois de la croix? Ce n'est pas le petit copain. Ce n'est pas le petit Jésus. Mais c'est Dieu. C'est Dieu. Est-ce qu'on peut transiger avec celui qui est allé jusqu'à la mort expiatoire sur le bas de la croix? Non. Seigneur, il faut que je t'honore. Il a dit que tous honorent le Père comme le Fils comme ils honorent le Père. Amen. Son œuvre sur la terre, elle est résumée par ces mots. Il a fait la purification des péchés. Amen. Et si je m'approche de lui dans la foi pour lui dire, Seigneur, lave-moi, purifie-moi. Je demande pardon. Et ensuite, je dois me relever en disant, il a fait la purification de mes péchés. Il m'a lavé. Il a fait de moi une nouvelle créature. Il a déchargé mon cœur et mon âme de la culpabilité. Je suis une nouvelle créature. Mais il faut marcher ensuite comme quelqu'un qui est dans l'innocence même. Amen. Parce qu'il m'a rendu mon innocence. Jésus, il est né, il a vécu, il est mort pour faire la purification des péchés. Il a quitté son ciel de gloire tout simplement pour venir jusqu'à nous et accomplir ce que nous ne pouvions pas accomplir. Alors, je reviens à la purification. Cette purification a été accomplie. Pas un qui dit Amen. Est-ce que vous l'avez expérimenté? Question qui mérite une réponse, mais personnelle, bien sûr. Hein, voilà. Jésus est-il devenu votre sauveur et votre Seigneur? J'entendais Amen. C'est important. Il faut savoir où on se situe. Est-ce que j'ai été lavé, purifié par le sang de l'agneau? Est-ce que j'ai ouvert l'intégralité de mon cœur? Est-ce que je l'ai laissé visiter? Certaines personnes me l'ont dit. Ah Seigneur, cette partie-là, non, c'est ça. Non. Et si, le Seigneur veut être le Seigneur dans notre vie. Amen. Il veut régner en tant que Seigneur. Amen. Alors voyez-vous, je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Dieu vous parle maintenant par son Fils. De quoi vous parle-t-il? Il vous parle de son sacrifice, de la purification de vos péchés. Mais pour que ce soit effectif, il faut que cette parole pénètre dans votre cœur, dans votre âme. Comme cette épée qui partage, jointure et moelle, à mes sentiments. Il faut qu'elle fasse son œuvre. Amen. Le message de Dieu, c'est le message de la croix. Il est mort pour nous sauver. Il est revenu à la vie pour nous conduire, nous aussi, dans une vie nouvelle. On ne peut croire et être sauvé, je dirais, qu'en passant par la croix. Amen. Il faut, c'est personnel. Alléluia. Ça, c'est la parole de Dieu pour le monde entier, pour tous les hommes. Dieu nous a parlé par le Fils, par lequel il a fait la purification des péchés. C'est la bonne nouvelle de Jésus. Alléluia. Enfin, le sang de la rédemption, il devait être aussi présenté à Dieu dans ce qu'on appelle le sanctuaire céleste. C'est pourquoi, comme dit Hébreux 9, 12, il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint. Non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang ayant obtenu une rédemption éternelle. Je reviens. Il est entré une fois pour toutes. N'attendez pas que Jésus remonte sur la croix. Ne vous attendez pas à cela. Il est mort une fois. Une seule fois. Pour la purification de nos péchés. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint. Non avec le sang des boucs, des animaux que l'on présentait, bien sûr, pas du tout, mais avec son propre sang. Vous en connaissez beaucoup de leaders dans ce monde qui vont leur vie, livrer leur vie en sacrifice, qui vont mourir et qui ensuite vont pouvoir présenter leur propre sang. Il n'y en a qu'un. C'est celui qui est mort sur le bois de la croix. Son corps a été déposé dans le tombeau. Oui. Mais à l'aube du troisième jour, il est vivant. Amen. Et parce qu'il est Dieu, parce qu'il est le seul juste, voilà comme il est dit, il a obtenu une rédemption éternelle. Amen. Le rédempteur, c'est celui qui paye pour les autres. C'est ce que Jésus a fait. Il a payé pour nous, parce que lui, il était sans faute, il était sans péché. mais il a livré sa vie en sacrifice pour nous, pour que nous ayons la vie. Amen. Ainsi donc, après avoir fait la purification des péchés, comme il est dit, il est entré dans le lieu très saint, le lieu céleste, avec son propre sang. Et vous savez où il est aujourd'hui? Où se trouve Jésus aujourd'hui? Il est à la droite de la majesté divine. Il est dans les lieux très hauts. Amen. C'est pas magnifique de savoir ça? Qu'il est à la droite de Dieu. Quand l'Écriture nous dit qu'il intercède pour nous, c'est pas important ça? C'est-à-dire que quand tu es dans la difficulté, Jésus est en train d'intercéder auprès du Père. Il faut le secourir. On ne peut pas le laisser comme ça, Seigneur. Vous comprenez? Eh oui, il est dans les lieux très hauts, au-dessus de toutes nos conceptions, au-dessus de notre compréhension. Il est Dieu. N'essayez pas de le comparer à quelqu'un d'autre, de le ramener à votre niveau, mais élevez-vous. Amen. Élevez-vous jusqu'à lui, élevez votre âme, élevez votre esprit. Toute vie chrétienne, quelque part, doit faire l'expérience de ces deux phases. Être purifié des péchés, parce que c'est pour ça que Dieu nous a livré son Fils en sacrifice à la mort, et nous faisons ensuite, eh bien, l'expérience de la vie céleste. C'est-à-dire être assis avec Christ dans les lieux célestes. Amen. Quelquefois, on le chante. Assis avec Christ dans les lieux célestes. Hein. Quand je suis assis avec Christ dans les lieux célestes, j'ai une position élevée. Amen. Je ne considère plus les choses comme terre à terre. Je vois d'en haut. Amen. Il y a l'ennemi. Moi, je suis au-dessus. Parce que celui qui est avec moi est plus grand que lui. Amen. Il est plus puissant. Alléluia. Alors, qu'est-ce qui se passe? Jésus le désire ce matin, c'est faire descendre le ciel dans notre cœur. Amen. J'ai été racheté à grand prix. Et quel prix! Il a livré sa vie en sacrifice pour moi personnellement. Qui suis-je? Une vapeur qui paraît pour un peu de temps, qui ensuite disparaît. Oui. Aujourd'hui, j'ai la vie. Parce que celui qui est dans le ciel est venu jusqu'à moi. Il m'a sauvé. Amen. Être un chrétien, c'est faire l'expérience, je dirais, de la croix, mais aussi du trône. Amen. La croix, parce que c'est effectif. Le sang de Jésus, le sang qui a coulé de la croix, m'a lavé. Et le trône, parce que quelque part, il veut me donner de vivre une vie supérieure. Amen. Celui qui est mon Père céleste, il est fortuné. Alléluia. Grande richesse. Je suis devenu co-héritier avec Christ. Alléluia. Formidable. Amen. C'est l'apôtre Paul qui dit dans sa lettre aux chrétiens de Colosse, Colossiens chapitre 3, versets 1 à 3, si donc, la conjonction est là, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Vivez cachés, à l'abri ou à l'ombre de ce grand rocher. Amen. Vivez cachés en Christ. Alléluia. Et Jésus, Yeshua, l'Éternel qui sauve. Amen. Celui qui donne la vie. Celui qui pourvoit à vos besoins. Amen. Ça, c'est la révélation complète, non pas fragmentée, de ce que Dieu veut faire dans vos vies, dans nos vies à chacun. Amen. Finalement, faisant partie des gens des plus riches de la terre. Où sont les gens les plus riches ce matin? Hein? Là aussi? Eh oui, oui. Mais oui, parce qu'ils nous donnent tout. Grâce sur grâce. Bénédiction sur bénédiction. Amen. Soyons simples, soyons vrais. Réalisons quel est notre avantage, si je peux m'exprimer comme ça, d'avoir peut-être fait de l'algèbre avant, calculer le pour et le contre. Non, je ne pense pas. Quand il y a eu la révélation, moi j'ai fondu en larmes. J'ai pleuré sur ma misère. J'ai compris qui était celui qui venait jusqu'à moi. Et depuis, je marche avec lui. Je suis heureux de vous annoncer la parole de Dieu ce matin. Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel », quelquefois le chante aussi. Hein. Mais c'est ça. Quel bonheur, j'ai entendu dans une prière ce matin. Seigneur, quel bonheur que de venir dans ta maison. Réjouissez-vous chaque jour de ce que Dieu vous prête vie, de ce que son regard est sur vous, de ce qu'il prend soin de vous. Quelquefois, il le fait à votre insu. Amen. Alors, c'est important de réaliser que celui qui est en nous, il est plus grand que celui qui est dans le monde. De lui faire confiance et d'avancer, de se réjouir, de ne pas avoir peur et de le bénir, de le bénir, de l'honorer. Alléluia. T'es chrétien, toi ? Oui, je suis chrétien. Oui. T'es un croyant ? Oui, je suis un croyant, mais je crois en Jésus-Christ. C'est important. Parce que dans ce monde, on croit tout. Hein ? En fait, on ne croit rien, quoi. On a besoin d'avoir des certitudes. Amen. Est-ce que vous croyez que Dieu vous aime ? Est-ce que vous croyez que justement son amour est quelque chose de précieux, de plus précieux que ce... Que l'or, que la richesse ici-bas. Sachant qu'on est venu nu et qu'on repartira nu. Mais si on a dans le cœur celui qui veut vivre en nous, se développer en nous, eh bien, on a tous les trésors et plus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia.